comment dirais-je, mes thèmes se sont développés à partir de ma carrière universitaire. Ma formation est une formation d'historien et je me suis trouvé devant la nécessité d'enseigner la littérature. Et à une époque où la plupart des critiques cherchaient dans les œuvres l'unique, l'absolument différent, je me suis intéressé au désir, sans savoir grand-chose au fond sur ce qui se disait sur le désir. Et j'ai beaucoup parlé à ce moment-là, à propos des romanciers, de ce que j'appelle le désir mimétique, c'est-à-dire l'imitation d'un désir par un autre sujet, n'est-ce pas, qui emprunte ce désir. Et cette forme d'imitation du désir est créatrice de rivalité immédiate, puisque le choix de l'objet est déterminé non pas par la rareté de cet objet ou par des facteurs extérieurs aux deux sujets ou par des facteurs qui viendraient des sujets eux-mêmes, mais par leur rencontre, par les points de contact, par le fait que instinctivement ils s'imitent l'un l'autre, donc ils vont devenir rivaux. À partir de cette thèse, si on la généralise, le problème de l'existence d'une société humaine, du fait que les hommes s'entendent, les hommes qui vivent ensemble, si vous voulez, il y a là un problème qui se pose, n'est-ce pas? Autrement dit, comment les hommes arrivent à surmonter la rivalité mimétique? Alors le désir mimétique, c'était à partir de la littérature, et j'ai un très bon ami, qui était d'ailleurs un Italien, qui s'appelait Eugenio Donato, qui est mort depuis, qui me disait « Tu devrais lire les ethnologues, tu verrais à quel point il y a du désir mimétique là-dedans. » Et finalement, c'est le genre de conseil qu'on ne suit jamais, mais j'ai fini par le suivre. Et alors, à partir de là, et à partir aussi de la tragédie grecque et de Shakespeare, j'ai développé la thèse de la crise mimétique derrière les mythes, derrière les rites, et derrière les interdits. La crise mimétique, ce serait des crises de mimétisme généralisé, de rivalité mimétique qui se déchaînerait et qui aboutirait à des phénomènes de bouc émissaire. Les rites seraient la reprise par une communauté fondée, en quelque sorte, par ce phénomène victimaire, la reprise sous une forme atténuée du phénomène qui a sauvé ou fondé la communauté. Les mythes seraient le souvenir de cette même crise, c'est-à-dire seraient la représentation que les persécuteurs de la victime se font de ce phénomène. Les interdits seraient la contre-imitation de cette même victime dans la mesure où elle apparaît comme celle qui a troublé la communauté. C'est-à-dire on ne refait pas dans une culture ce qui fait que la victime a troublé la communauté, mais on fait ce qui semble faire que cette même victime a sauvé la communauté en mourant dans cette crise, n'est-ce pas? C'est pourquoi les rites, à mon avis, ont très souvent la forme d'une espèce de mise en désordre volontaire de la communauté.
D'où vient ce désordre? Au XIVe siècle, les lépreux sont accusés de complot et exterminés. Par la suite, ce sera le tour des juifs, des hérétiques et des sorcières. Et même à l'époque des Lumières, la Révolution française peut se lire comme une grande mise en scène sacrificielle, où le roi, la reine, les divers chefs politiques tiennent tour à tour le rôle de victime. Partout, selon Girard, la logique du bouc émissaire. Chez les anciens Hébreux, on chargeait un bouc de toutes les fautes de la communauté et on l'envoyait se perdre dans le désert.